nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Bruno Dussossois.
Bonjour à tous. Si les araignées sont jugées moins repoussantes que les cafards par la majorité d'entre nous, elles figurent en revanche au deuxième rang du classement des insectes qui font le plus peur, derrière les guêpes et les abeilles. Tel est en tout cas le résultat d'un sondage Ipsos Vimovit intitulé « Les Français et la peur des insectes » réalisé en mars 2009. Les araignées font donc peur, aux femmes plus encore qu'aux hommes d'ailleurs. Peur le plus souvent déraisonnable, si l'on songe que sur les 42 000 espèces recensées dans le monde, moins d'une dizaine sont dangereuses pour l'homme. Et encore faut-il les rencontrer, ces espèces dangereuses, ce qui est fort improbable dans nos contrées. Dans cette émission, nous allons tenter de comprendre ce monde fascinant, mystérieux et, disons-le, poétique, formé par le peuple des araignées. Ce peuple, mon invité le connaît bien, elle en fait en quelque sorte partie, à tel point qu'on la surnomme la femme araignée. Bonjour Christine Rollard.
Bonjour.
Vous enseignez au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui organise une exposition sur vos chères araignées du 5 octobre 2011 à la fin juin 2012. Et vous sortez un livre à cette occasion avec le journaliste Vincent Tardieu, un beau livre illustré, Arachna, les voyages d'une femme araignée, publié par Belin et le Muséum. Comment et pourquoi en êtes-vous venu à l'étude des araignées? N'avez-vous jamais eu peur d'elles?
Non, effectivement, je n'ai jamais eu peur des araignées ou des petites bêtes ou des grosses bêtes qui faisaient partie de la nature, donc en général. Et je vais me permettre de faire une petite rectification par rapport à ce que vous avez dit précédemment. En particulier, et c'est souvent en fait confondu, les araignées ne sont pas des insectes. Donc on les distingue par plusieurs petits caractères, en particulier le nombre de pattes. Donc les araignées en ont 8 et les insectes en ont 3 paires. En plus, les araignées n'ont pas d'antennes et les insectes ont des antennes. Donc il y a un certain nombre de caractères qui les distinguent. Il ne faut surtout pas confondre araignées et insectes.
Justement, vous êtes la seule femme arachnologue, ou plutôt devrais-je dire aranéologue. À ce titre, vous faites partie du cercle très restreint des scientifiques qui ont pour objet d'étude les araignées. Alors c'est suffisamment rare pour être souligné dans un monde du travail dominé par les hommes, surtout quand on sait que la société que vous étudiez, ce sont les femelles qui ont la part belle. Ce sont des reines, au fond.
Un petit peu, mais c'est peut-être quelquefois aussi une idée un petit peu fausse. On a souvent l'impression que les araignées femelles mangent leurs mâles, par exemple, ce qui n'est pas systématique. Les mâles ont développé un certain nombre de stratégies. Et effectivement, vous avez bien fait de préciser aranéologue et non pas arachnologue.
Quelle est la différence?
Parce que je m'intéresse surtout, et je fais de la recherche sur les araignées, donc aranéa au départ, donc aranéologue, et les arachnologues sont ceux qui s'intéressent à tous les arachnides. Les araignées font partie des arachnides, mais dans les arachnides, les cousins, en fait, les proches cousins des araignées, ce sont, on les connaît bien aussi, les scorpions, les acariens, les opilions, ce qu'on appelle les faucheux communément. Donc, tout ça, ce sont les arachnides. Et les araignées, c'est vraiment les aranéides, d'où le nom de aranéologue.
Et les arachnides font partie aussi de la grande famille des arthropodes.
Voilà, donc c'est un grand groupe zoologique, les arthropodes, c'est-à-dire les animaux à pattes articulées, dont font partie aussi les insectes, dont on parlait tout à l'heure, ou alors les crustacés ou les mille pattes, par exemple.
Un mot sur votre métier. En quoi consiste-t-il? Vous travaillez avec quels outils, à la fois sur le terrain et puis en laboratoire?
C'est vrai que quand on va sur le terrain pour aller chercher les araignées, il faut utiliser un certain nombre de méthodes. Elles sont souvent de petite taille, donc on ne les voit pas forcément. Donc on utilise un peu la chasse à vue, bien sûr, pour les plus grosses, qu'on voit souvent sur des toiles, par exemple. Mais beaucoup sont de petite taille au sol ou dans la végétation. Donc on utilise ce qu'on appelle un parapluie japonais, un filet fauchoir, etc.
Le parapluie japonais, par exemple, pouvez-vous le décrire rapidement?
Alors, parapluie japonais, c'est en fait une nappe de tissu, tout bêtement. Donc, une nappe de tissu qu'on tend avec des bouts de bois, on va faire dans le plus simple, et qu'on met en fait sous les branches des arbres. On secoue ces branches ou on tape les branches et on récupère un peu sur la nappe ce qui a pu tomber. Donc, ça peut être des insectes, ça peut être des araignées, ça peut être des petits mille-pattes. Et comme ça, on peut récupérer en fait des araignées de petite taille.
Donc il y a le parapluie japonais, il y a le filet...
Le filet fauchoir, donc en fait c'est un filet de toile.
Une sorte de filet à papillons.
Pas tout à fait. Le filet à papillon, en fait, on l'utilise plutôt pour les insectes qui volent. Et le filet fauchoir, on l'utilise plutôt pour tout ce qui est herbe. Donc, en fait, on fauche dans les herbes. Voilà, on fait le geste auguste du faucheur et on fauche dans les herbes et on récupère aussi dans le filet fauchoir un certain nombre d'animaux, dont les araignées. Donc ça, c'est vraiment les techniques de terrain, bien évidemment.
Et vous montez justement parfois à la cime des arbres.
Ça arrive aussi. C'est pas fréquent. Il faut quand même des moyens plus importants dans ces cas-là, hein.
On le voit dans votre livre Arachna, les voyages d'une femme araignée en Auvergne. Vous montez comme ça dans ce qui s'appelle une bulle des cimes.
Tout à fait. Donc ça, c'était un moyen qui avait été mis dans un programme, hein, donc qui travaille justement sur les canopées. Hein, donc canopées souvent tropicales, mais aussi canopées européennes. Et donc, nous avons fait en fait une mission en Auvergne. Et là, c'est très intéressant d'aller voir ce qu'il y a également effectivement à la cime des arbres, puisqu'on peut trouver des espèces peut-être qui ne sont pas présentes en fait au sol, ou d'autres qui ont une répartition au niveau de l'altitude qui est plus importante que celle qu'on croyait.
On va en parler tout à l'heure. Simplement, sur les outils toujours, qu'utilisez-vous en laboratoire ?
Alors c'est assez simple pour la recherche que je fais moi-même, hein, donc qui est la recherche en systématique, avec l'identification plutôt au niveau des caractères qu'on peut voir sur la bête, les caractères morphologiques. Donc j'utilise une loupe binoculaire, et ça peut être aussi un gros microscope, donc qu'on appelle un microscope à balayage, bien que maintenant, d'autres techniques sont utilisées, comme la biologie moléculaire. Donc, on peut prélever de temps en temps des petits morceaux de pâte ou des petits morceaux d'araignées pour pouvoir les étudier en moléculaire.
Les araignées ont ceci de particulier qu'elles ont colonisé à peu près tous les milieux. Mmh. On en a même trouvé, paraît-il, dans l'Himalaya.
Bien sûr.
Qu'en est-il en France ? La France est-elle un pays riche en araignées ?
Oui, on a, pour l'instant, à l'heure actuelle, répertorié environ 1600 espèces d'araignées en France. Et certaines sont endémiques, hein, donc c'est-à-dire présentes uniquement dans certaines régions de France, comme dans les Pyrénées ou en Corse. Hein. En Corse, il y a beaucoup d'espèces endémiques, pas seulement chez les araignées. Donc effectivement, on se retrouve avec quand même un grand nombre d'araignées parmi les 42 000 espèces qui existent à l'heure actuelle.
Vous avez parlé de la Corse. Que trouve-t-on, par exemple, comme espèce d'araignée ?
Alors, comme espèce d'araignée qui est endémique en fait de Corse, par exemple, et de Sardaigne, ce sont des petites mygales. Souvent, on a l'impression que les mygales ne sont que des espèces qui sont tropicales, ce qui est faux. On a quand même une quarantaine d'espèces qui sont européennes, donc des petites mygales, bien évidemment, qui ne sont pas celles qui sont montrées dans les films, qui ont des grosses tailles, mais qui font autour de, disons, entre 1 cm et 2 cm et demi. Donc on a une mygale en Corse qui vit dans un terrier, qu'elle ferme par un petit opercule de soie et de recouvert de terre, qui n'est pas très visible, donc il faut vraiment aller la chercher.
Il y a aussi, je crois, en Corse, les veuves noires.
Bien évidemment, mais ça, c'est pas seulement en Corse, c'est aussi dans le sud de la France, et dans le sud d'un certain nombre de pays européens. Donc en fait, elle a une répartition assez large. Donc c'est la veuve noire méditerranéenne qui n'a jamais provoqué d'ailleurs de cas mortels dans nos contrées, même si elle en a provoqué effectivement, enfin en tout cas des espèces qui sont proches, hein, bien sûr, de la veuve noire. C'est un groupe d'espèces aux États-Unis ou donc en Afrique ou en Australie. Mais le cas de rencontre avec ces veuves noires, même si le nom fait souvent peur, est très, très, très peu fréquent.
Et pourquoi d'ailleurs les appelle-t-on les veuves noires ?
La réputation de ces femelles, c'est de manger le mâle, hein, donc d'être veuve assez facilement. Et on va peut-être minimiser un petit peu ça aussi. Hein. Elles ne mangent pas systématiquement leur mâle.
Sauf peut-être quand elles sont affamées après l'accouplement.
Peut-être après l'accouplement. Elles ont besoin d'énergie ensuite pour pondre quand même. Donc, et de toute façon, quelle que soit l'espèce, que ce soit les veuves noires ou les autres espèces d'araignées, les mâles après l'accouplement meurent en général. Hein, donc ils ont une durée de vie beaucoup plus courte que les femelles.
Les araignées ont pour autre caractéristique d'être gourmandes. Elles peuvent manger, je crois, jusqu'à 5 fois leur poids. Vous me corrigez évidemment si je me trompe. Ce sont avant tout des carnassières, n'est-ce
oui,
pas
oui, tout à fait. Hein. Donc ce sont vraiment des carnivores. Quoi, hein. Et donc elles peuvent aussi d'ailleurs se manger entre elles. Hein.
Elles, donc, elles sont aussi cannibales.
Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui font souvent peur, hein, dans l'imaginaire humain. Mais j'ai souvent l'habitude de dire que cannibales, c'est très bien, elles se mangent entre elles. Elles régulent leur population toutes seules, donc on n'a pas besoin d'en rajouter un petit peu plus en les tuant nous-mêmes, en fait. Elles ont un rôle dans la nature et dans la chaîne alimentaire. Donc effectivement, elles se nourrissent de proies souvent vivantes, donc il faut que les proies bougent. Et c'est souvent quand même des insectes aussi, elles limitent les populations d'insectes.
Comment mangent-elles ? Ou plutôt, devrais-je dire, comment boivent-elles leurs proies ?
Ah oui, vous avez tout à fait raison. Elles sont très délicates, en fait, ces araignées, puisqu'en fait, elles liquéfient les tissus de leurs proies au préalable, c'est-à-dire qu'elles font une exodigestion. Hein. Donc, nous, on digère à l'intérieur, elles font une digestion à l'extérieur, grâce à l'action, en fait, du venin et de la salive. Donc, ça liquéfie les tissus, Et ensuite, elles n'ont qu'à absorber en fait cette bouillie ou sucer effectivement donc le liquide.
On peut aussi les manger, ce qui doit peut-être vous désespérer. J'ai vu qu'on les faisait frire en Asie, on peut les réduire en poudre au Brésil et en Australie, où on leur prête des vertus aphrodisiaques. Mm-hmm. En avez-vous déjà mangé ?
Je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Je ne sais l'envie. Pas si j'y arriverai. Pas forcément, effectivement. Donc, quand on travaille dessus, c'est vrai que c'est difficile. Mais il paraît, donc, avec quelques témoignages, que ça a un bon goût et on mange bien autre chose, nous. Hein, donc, pourquoi pas des araignées ?
Dans l'imaginaire collectif, qui dit araignée dit toile d'araignée. Mmh. Or, toutes les araignées, il faut le préciser, ne font pas de toile.
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est souvent ça qui est associé en fait à l'araignée. Et on va préciser, on associe à l'araignée la soie et non pas la toile. Effectivement, parce que beaucoup d'espèces d'araignées n'utilisent pas ce piège pour capturer des proies et font de la chasse à court, font de la chasse en sautant, font de la chasse à l'affût. Donc les techniques de chasse chez les araignées sont très diversifiées et pas seulement avec une toile.
Justement, ce sont de redoutables chasseurs. Pouvez-vous donner quelques exemples de techniques de chasse ?
Alors, dans les plus peut-être spectaculaires, on va dire qu'il y a des araignées qu'on appelle les araignées gladiateurs, vous vous rendez compte ? Donc, elles utilisent carrément en fait un filet qu'elles tissent effectivement et qu'elles tiennent avec leurs pattes. Mais ce filet, elles vont le lancer en fait sur les proies qui passent à portée. D'autres sont appelées les araignées lasso. Donc, elles font uniquement un petit fil sur lequel elles mettent une gouttelette de glu odorante et elles le tournent comme un lasso, comme le font les Indiens, donc qu'on appelle les Indiens bolas.
En Amérique du Sud.
En Amérique du Sud. Et elles capturent ainsi, en fait, des proies qui passent à portée. Et c'est très particulier puisque c'est uniquement des mâles de certaines espèces de papillons qui sont attirés par ces hormones. Donc, les techniques sont vraiment très variées, que ce soit au sol, dans la végétation. Donc, elles font aussi des terriers, elles peuvent se déplacer, courir, sauter, donc c'est vraiment très varié.
Il y a aussi le genre zodarion qui s'introduit dans les fourmilières, est-ce que vous pouvez en parler ?
Et oui, effectivement, elles sont vraiment... Alors, la plupart des araignées ne sont pas très spécialisées vers leur proie. Elles sont assez ubiquistes, elles vont manger ce qui se présente. Mais ces araignées-là, effectivement, sont vraiment très particulières et vont se nourrir de fourmis. Les fourmis ne sont pas des proies qui sont souvent appréciées de la majorité des animaux. Bon, elles ont des techniques en fait pour essayer d'échapper justement à des prédateurs éventuels. Et les odarions vont effectivement pénétrer très subrepticement en fait dans les fourmilières ou capturer des fourmis qui se déplacent, hein, pas forcément aller dans les fourmilières. Elles sont assez rapides pour aller capturer ces proies, même si elles ne ressemblent pas forcément à des fourmis elles-mêmes, ce qui n'est pas le cas pour d'autres araignées qu'on appelle les araignées fourmis, mais qui ne se nourrissent pas forcément de fourmis.
Il y a aussi les araignées qu'on appelle cracheuses.
Oui, on les retrouve d'ailleurs dans les habitations. Alors, pas très, très fréquemment visibles, parce que ce sont des toutes petites araignées qu'on peut retrouver souvent dans des salles de bain, par exemple, dans des zones qui sont un petit peu humides. Et elles font autour de, je dirais, 4 mm, taille du corps, hein, sans les pattes. Et elles ont une sorte de glande associée à la glande à venin, donc dans la partie donc avant du corps, qui leur permet de produire une sorte de fil un peu gluant qu'elle va lancer sur une mouche, en particulier dans les habitations. Et donc, la mouche est scotchée au sol et ensuite, l'araignée va venir tranquillement mettre son venin et tuer la proie avant de la manger.
L'araignée cracheuse, venez-vous de dire, ne dépasse pas 4 mm. Il faut préciser ici, je crois que la taille moyenne des araignées ne dépasse pas 5 mm.
C'est ça, tout à fait, oui, oui. Donc, la majorité des araignées, bon, bien sûr, on a l'habitude de dire elles sont grosses, elles sont velues, etc. C'est pas du tout la réalité. Elles font entre la plus petite 0,3 mm jusqu'à effectivement 10-15 cm de taille du corps pour les plus grosses mygales qu'on peut voir sous les tropiques.
Les araignées sont certes des prédateurs, de redoutables chasseurs, je l'ai dit, mais elles sont aussi victimes d'autres prédateurs, comme le rappelle la fable de La Fontaine, l'hirondelle et l'araignée. Est-ce que vous pouvez décrire quels sont ces prédateurs ?
Alors le plus gros prédateur de l'araignée, c'est l'araignée elle-même. Donc on revient sur le cannibalisme. Ça peut être aussi certains oiseaux, certains micromammifères, des lézards, d'autres arachnides. Hein. Certains scorpions vont se nourrir d'araignées, et l'inverse d'ailleurs est aussi exact. Donc c'est ça en fait les prédateurs des araignées. Et elles ont aussi des parasites, c'est-à-dire des insectes qui vont se nourrir des araignées, qui vont pondre sur les araignées ou dont les larves vont se nourrir des œufs d'araignées. Donc il y a effectivement un équilibre qui se fait.
Comme les guêpes pompiles, je crois.
Exactement. Donc les guêpes pompiles vont pondre, donc vont capturer des araignées et pondre un œuf sur le dos de l'araignée, les enfermer dans une sorte de terrier et la larve ensuite se nourrira de l'araignée qui est paralysée jusqu'à ce que l'insecte effectivement donc émerge.
Et c'était le sujet, je crois, de votre thèse de doctorat. Et
effectivement. Donc sur ma thèse de doctorat, j'ai vraiment travaillé sur les parasites d'araignées, en particulier ceux qui pondent des œufs dans les cocons d'araignées et ceci en landes armoricaines.
L'homme n'est-il pas non plus aussi plutôt un prédateur ?
L'homme est un prédateur et je pense que petit à petit, il va falloir qu'il enlève un petit peu son comportement justement de, on va dire, un petit peu, il tue souvent en fait l'araignée, considérant que c'est un animal qui est un petit peu nuisible entre guillemets, j'aime pas du tout ce terme, mais bon, donc je le mets entre guillemets, puisque l'araignée est utile. Il va falloir enlever un peu ce comportement puisque l'araignée est souvent un bon insecticide naturel et l'homme, de par son aspect, souvent des araignées des maisons qui sont pas forcément les plus jolies, hein, donc joli toujours entre guillemets, bah va effectivement avoir le réflexe de les tuer. Donc maintenant, il va falloir peut-être un petit peu avoir un changement de comportement.
Parmi les araignées des maisons, il y a la fameuse tégénaire, voilà, qui est un peu, en somme, l'arbre qui cache la forêt.
Exactement, parce que ça n'est pas du tout l'image en fait du monde des araignées, de la diversité des araignées. Et malheureusement, c'est celle qu'on peut voir assez proche de nous et qui est assez grosse de taille, velue, sombre, qui court sous les meubles, donc il y a des toiles qui prennent la poussière, donc ça fait sale. Donc elle accumule, je veux dire, un certain nombre de critères qui ne sont pas forcément des critères positifs hein, dans l'imaginaire humain. Effectivement, c'est cette image-là qu'on a et qu'il va falloir combattre.
Les tégénaires mâles sont souvent à la recherche, évidemment, de femelles. Ça dit quelque chose, ça dit que les araignées sont des êtres solitaires.
Oui, tout à fait. La majorité des araignées, la grande, grande majorité des 42 000 espèces sont solitaires. À l'heure actuelle, on a répertorié une grosse vingtaine d'espèces d'araignées qu'on va dire sociales ou communautaires. C'est tout. C'est-à-dire qu'elles vivent sur des constructions de soie ensemble et elles capturent des proies beaucoup plus grosses qu'elles.
On les trouve, je crois, dans les tropiques.
Tout à fait. On n'en a pas effectivement donc en France ni en Europe.
Et le comportement de ces araignées sociales est-il semblable, par exemple, à celui des fourmis ?
Non, non, non. Ce ne sont pas des sociétés hiérarchisées avec des reines, avec des soldats, avec tout un tas de catégories, hein, donc comme chez les insectes. Il y a une reconnaissance et une tolérance en fait de ces araignées qui se tapotent, qui se rencontrent, qui font des mouvements en commun avec les vibrations des fils. Mais il n'y a pas du tout de hiérarchisation. Donc c'est pour ça que je parle entre guillemets d'araignées sociales, c'est plus une vie en communauté. Mais la majorité sont solitaires et quand elles se rencontrent, elles peuvent se manger entre elles.
Les araignées, comme tous les êtres vivants, se reproduisent, sauf que la reproduction chez les araignées prend un caractère tragique. Elle aboutit à la mort.
Oui, mais pas tout le temps quand même. Donc effectivement, les mâles, quand ils vont s'accoupler avec les femelles, vont développer des stratégies d'approche pour diminuer cette agressivité naturelle qui fait que souvent, comme les mâles sont plus petits au niveau taille, ils ont la taille d'une proie potentielle pour la femelle.
Expliquons tout de suite que entre la femelle et le mâle, il y a ce qu'on appelle un dimorphisme.
Tout à fait, il y a un dimorphisme sexuel, que ce soit au niveau de la taille, même au niveau de la coloration et au niveau quelquefois de la forme, hein, ce qui n'est pas forcément toujours évident pour associer mâle et femelle hein, au niveau de la systématique. Mais ces mâles, en fait, quand ils ont développé leur stratégie et quand ils ont réussi à s'accoupler, peuvent aller éventuellement s'accoupler avec d'autres femelles. Ils ne sont pas mangés systématiquement. Mais c'est vrai que de temps en temps, effectivement, certains mâles servent de nourriture et d'apport énergétique à la femelle qui va pondre ensuite ses œufs.
Et vous avez dit que certains mâles font la cour. Est-ce que vous pouvez donner un exemple ?
Oui, tout à fait, parce qu'il y a certains mâles, en fait, chez les araignées qui vont carrément offrir des cadeaux à la femelle. C'est-à-dire qu'ils vont aller capturer, en fait, une proie qu'ils vont emmailloter. Et une fois qu'ils sont prêts, avec leur proie emmaillotée, avec de la soie, ils vont aller chercher la femelle et vont offrir à cette femelle cette proie emmaillotée. Et quand la femelle l'accepte et commence à manger, le mâle fait son affaire et ensuite peut aller peut s'en aller sans problème.
Et comment fait-il justement son affaire?
Alors en fait, la distinction mâle et femelle, c'est vrai qu'on ne la connaît pas, hein, quand on n'est pas dedans. Donc ça se situe au niveau d'une petite paire de pattes que les araignées ont à l'avant, qu'on appelle les pédipalpes ou pattes mâchoires. Et chez les araignées qui vont se développer en mont, hein, donc en changeant de peau régulièrement, le bout de ces petits pédipalpes va se renfler en une boule. Donc en fait, pour reconnaître justement les araignées mâles des araignées femelles, ben, les petites araignées qui ont des petites boules au bout des pattes, alors bien sûr le terme scientifique c'est bulbe copulateur, ça va servir à la copulation et à l'accouplement. Celles qui ont des petites boules et des bulbes copulateurs au bout de ces petits pédipalpes sont des mâles, celles qui n'en ont pas sont des femelles.
On les appelle aussi, je crois, ces petites bulles des gantbox.
Ben, c'est un terme qu'on utilise pour que ça soit un petit peu plus pédagogique, hein, et en particulier au niveau des enfants, mais même des adultes. Hein, et quand on voit ces gantbox, donc c'est effectivement des mâles. Et ces gantbox vont servir bien sûr à quelque chose. Quand on parlait de l'accouplement, c'est là-dedans qu'il y a effectivement le stock de spermatozoïdes. Et le mâle va devoir insérer ces gantbox, hein, ou ces bulbes copulateurs dans une fente génitale que la femelle possède au niveau de l'abdomen.
Il s'appelle pour pouvoir l'épigyne, insérer, je crois.
Voilà, hein, donc c'est la partie externe qu'on appelle épigyne, donc pour pouvoir effectivement déposer ses spermatozoïdes.
Alors je crois aussi que l'acte justement de la reproduction est très bref et brutal.
Ça dépend des espèces, hein. On ne peut pas généraliser, ça peut être très rapide comme ça peut prendre effectivement quelquefois plusieurs minutes, voire un temps marqué.
J'ai lu jusqu'à 7 heures chez les lignifides.
Exactement. Les nénuphides sont d'ailleurs des espèces qui sont de petite taille souvent, donc on ne les voit pas beaucoup. Si ce n'est celles qui font, pour généraliser un petit peu cette famille, c'est celles qui font souvent des petites toiles en nappe qu'on voit donc au sol ou dans les buissons. Et elles se trouvent sous ces nappes de soie. Et quand les mâles approchent, là, les approches, ce n'est pas une offrande de cadeau, c'est des tiraillements des fils ou des tapotements et qui permettent à la femelle, en fait, de, ben justement, de diminuer son agressivité. Le mâle peut approcher et peut ensuite s'accoupler avec la femelle.
Vous avez parlé justement des toiles en nappe. C'est assez extraordinaire, je crois, la multiplicité des toiles chez les araignées. Est-ce que vous pouvez décrire aussi cette caractéristique?
Pour être rapide, il y a les toiles en géométrie classique, hein, donc, qui sont souvent en fait, connues par le tout public, qui peuvent être d'ailleurs aussi de taille et de formes différentes. Il y a des toiles en nappe, hein, donc suspendues par des fils et ça fait vraiment une sorte de hamac un petit peu. Il y a des toiles en réseau, c'est vraiment au bout des rameaux, on peut trouver des réseaux de fils un petit peu enchevêtrés. Il y a des toiles en fait qui sont
en entonnoir.
Voilà. Il y a des toiles aussi donc en chaussettes, c'est des tubes donc dans la terre qui sont recouverts de fils de soie. Ce tube de soie se prolonge à l'extérieur. C'est typiquement les petites mygales de chez nous qu'on peut même trouver dans le jardin des plantes à Paris. C'est des mygales à chaussettes.
Mais la fabrication des toiles géométriques demeure une énigme.
On a observé quand même un certain nombre de constructions. Hein. C'est vraiment très particulier et très régulier. C'est d'ailleurs en fait utilisé aussi comme modèle mathématique, hein, avec cette régularité donc par un certain nombre de personnes qui étudient justement ces modèles mathématiques. C'est effectivement variable selon certaines espèces et on a un certain nombre de rayons qui sont définis, un certain nombre de spirales. En fait, la spirale est soit collante, soit pas collante. Le centre peut être laissé libre ou être complété par des fils de soie. Donc, c'est effectivement très varié et c'est étudié depuis quelques années déjà.
Et celles qui tissent des toiles collantes en partie, comment font-elles pour ne pas rester engluées sur la toile?
En fait, les araignées qui construisent des toiles ont au bout des pattes, hein, comme la plupart des araignées, elles ont toutes au bout des pattes des petites griffes. Mais celles qui construisent des toiles en ont trois, contrairement à la plupart qui sont errantes, qui n'en ont que deux. Et donc trois griffes au bout des pattes, et ces trois griffes, en fait, en prenant le fil de soie de leur toile, donc elles le prennent d'une certaine façon, ça sera montré dans l'exposition justement donc, au muséum, et ça leur permet de se déplacer sur ces fils. Et il ne faut pas oublier que tous les fils en fait, d'une toile ne sont pas collants, donc elles ne vont pas forcément aller sur leurs fils collants. Et les araignées aussi se nettoient régulièrement, elles font des toilettes un petit peu comme les toilettes de chat, et quand elles passent leurs pattes dans leur bouche, elles s'enduisent leurs pattes, une sorte de liquide ou de produit, qui leur permet aussi de ne pas se coller sur leur propre toile.
Et celles qui ne tissent pas de toile collante ont un autre fil à leur toile, si je puis dire, qui leur permet de se mouvoir sur des surfaces lisses. C'est ce qu'on appelle, je crois, la scopula. Est-ce que vous pouvez décrire ce que c'est?
Alors, les scopulas, en fait, c'est des petites touffes de poils, effectivement. Donc, celles-là, ce n'est pas forcément des araignées qui font des toiles, mais qui font des fils, effectivement, comme toutes les araignées font des fils de soie. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas la toile qui est caractéristique, mais la soie. Donc, ces fils de soie, et elles peuvent se déplacer sur des surfaces qui sont lisses, celles-ci, puisqu'en fait, la scopula sert un petit peu, bon, ça fonctionne un petit peu, on va dire, pour généraliser, comme une ventouse. Par exemple, quand on voit la tégénaire des maisons, quelquefois, qui tombe dans une baignoire, bah celle-ci, elle a trois griffes aux pattes. et elle n'est pas sortie des tuyaux.
Elle n'a pas juste... de poils scopulés.
Eh ben non, donc en fait, elle est tombée dans la baignoire en se déplaçant dans la nuit et elle ne peut pas remonter sur la surface lisse et sur le bord de la baignoire. Donc effectivement, celle-ci vaut mieux la sortir, tandis que d'autres peuvent se déplacer sur des surfaces effectivement verticales, voire à l'envers, sans problème, grâce à la scopula.
Et d'où l'utilité pour les tégénaires mâles d'une échelle de baignoire, comme font nos amis anglais.
Mais bien sûr, je pense d'ailleurs qu'on en présentera en fait au musée, pour qu'il n'y ait pas que les Anglais qui puissent faire sortir les araignées des baignoires et leur permettre justement de se sortir toutes seules, si les gens ne peuvent pas effectivement les sortir et les prendre pour les mettre dehors.
Tisser une toile, contrairement à la couture, ça ne s'apprend pas, je crois. C'est un savoir-faire inné.
Complètement, oui, oui. Donc, en fait, il y a des petits bébés araignées qui sont issus de familles ou d'espèces qui, pour capturer leur proie, vont tisser des toiles, vont le faire dès le plus jeune âge. Alors, bien sûr, ce sont des toiles qui sont de toute petite taille, puisque ces araignées-là sont minuscules quand elles naissent, mais elles ont besoin de manger et elles vont construire leur petit piège, en fait, tout à fait naturellement, puisque ça fait partie, effectivement, c'est défini au niveau génétique. See the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing. All right, now, now. Hey, hey. Hey, hey. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. See me in misery. Come on, baby, see about me now, yeah. All right, all right. Oh, play it, boy.
Pour toutes ces activités, l'araignée dispose de deux outils prodigieux, le venin et la soie. Mmh. Voyons d'abord le venin, si vous voulez bien. Sa fonction est essentiellement nutritive.
Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que si il y a quelquefois morsure des hommes...
Parce que les araignées mordent, elles ne piquent pas.
Tout à fait. On va bien préciser effectivement ce terme. Et les cas de morsure humaine sont très 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 rares. Donc effectivement, ce venin, elles ne vont pas forcément l'utiliser quand ce sont des réactions de défense, puisqu'il est précieux. Elles vont l'utiliser effectivement dans la fonction de nutrition pour se nourrir et tuer ou paralyser leur proie.
Et certains venins quand même sont très actifs. Sur l'homme,
oui.
Notamment.
Oui.
C'est le cas de celui du venin de la veuve noire,
voilà.
Ou de la mygale australienne.
Oui, effectivement. Donc, chaque espèce d'araignée a un venin différent, un cocktail donc différent. Sur les 42 000 espèces, une centaine ont été étudiées jusqu'à présent, en particulier celles qui peuvent avoir des contacts avec l'homme, dont les veuves noires et dont la mygale australienne. Et il se trouve qu'effectivement, il y a certaines toxines. Bon, on peut être sensible en fait à certaines toxines en fait par rapport à ces espèces-là. Mais pour d'autres espèces, en fait, on n'est absolument pas sensible. Et même s'il y a venin qui est effectivement injecté au moment de la morsure, ça nous fera strictement rien.
Mais quels sont les symptômes en cas de morsure par ces araignées ?
Les symptômes peuvent être variables. Imaginez quand vous êtes piqué par un moustique, on fait des réactions effectivement individuelles différentes. C'est exactement la même chose pour les araignées. Bien que, effectivement, pour les veuves noires qu'on appelle les latrodectes, donc on parle au niveau médical de latrodectisme, puisqu'il y a quand même un certain nombre de symptômes, hein, donc au niveau des phénomènes de sueur, de tachycardie, de choses comme ça. Donc il y a toute une symptomatologie médicale qui est dédiée au latrodectisme. Tout comme la mygale australienne qu'on appelle Atrax robustus. Et là, on a effectivement aussi une symptomatologie médicale qu'on appelle l'atraxisme, par exemple.
Parce qu'il y a deux sortes de toxines, je crois. Il y a une toxine paralysante et une toxine nécrosante.
Alors oui, c'est ça. On parle plutôt de toxines nécrotiques et de toxines neurotoxiques. Donc, une attaque le système nerveux et l'autre, effectivement, fait des nécroses de la peau qui peuvent se développer quelquefois dans certains pays de façon surdimensionnée et font des infections, voire des surinfections en fait au niveau de la peau. Alors celles qui sont responsables des morsures neurotoxiques, ce sont effectivement les veuves noires ou l'atrax. Et pour les venins nécrotiques, c'est le groupe des loxocèles. Hein, donc voilà.
Et ça peut aboutir, dans le dernier cas, des loxocèles à l'amputation d'un membre.
Oui, alors c'est pas quand même des cas très fréquents. C'est arrivé quelquefois donc, dans certains pays d'Afrique. Mais effectivement, en général, quand c'est bien soigné, on en réchappe sans problème.
Autre outil formidable dans la besace de l'araignée, la soie. Il y a différents types de soie pour différents types d'activités. Lesquelles ?
Alors, elles utilisent la soie donc, pour se déplacer. Quand vous vous réveillez tôt le matin avec la rosée, vous avez des fils un peu dans tous les sens. Ce sont des fils de déplacement. Donc, elles ont souvent un fil au derrière, donc c'est des fils de déplacement.
Contrairement à Spider-Man qui, lui, les a au niveau des mains.
Exactement. Ça aurait été difficile de lui faire sortir ça par le derrière. Hein. Donc, effectivement, ça sort normalement au bout de l'abdomen. Sinon, il y a effectivement des fils pour entourer les œufs, il y a des fils pour faire les pièges, donc il y a des fils pour les mâles pour faire une petite toile spermatique, déposer le sperme avant de remplir les petits gants de boxe dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a vraiment un grand nombre en fait, d'utilisations de la soie à différents moments de la vie de l'araignée.
Il y a aussi un beau terme, les fameux fils de la Vierge, ce sont des fils d'envol. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ?
Les araignées ont colonisé beaucoup de milieux, on les retrouve partout sauf aux deux pôles. Et elles ont effectivement utilisé la voie des airs pour se disperser, c'est-à-dire qu'elles émettent au moment de la sortie des cocons, donc des petits fils de soie. Elles se laissent emporter telles des aéronautes dans les airs et se déplacent ainsi sur quelques mètres, voire plusieurs kilomètres. On peut en retrouver en plein milieu de l'océan sur des mâts de bateaux. Et quand tous les bébés partent en même temps et vont se diriger en même temps avec l'air et les souffles, ben on se retrouve avec des fils partout au même endroit, et c'est ce qu'on appelle les fils de la Vierge.
Et ces araignons donc, qui s'envolent avec leurs fils de la Vierge peuvent souvent mourir, c'est-à-dire qu'il y a une mortalité infantile très élevée au moment de...
Énorme en fait, effectivement. Donc pour des espèces qui pondent énormément d'œufs avec beaucoup de bébés qui vont sortir des cocons, on dit qu'il y a à peu près même pas 1% en fait qui arriveront au stade adulte. Et énormément, effectivement, meurent au moment de la dispersion, puisque si elles retombent en pleine mer ou si elles retombent dans des milieux qui ne sont pas du tout propices à leur installation, elles vont mourir. Et n'oublions pas encore les prédateurs à ce moment-là, c'est-à-dire, effectivement, les oiseaux, les chauves-souris, qui, quand elles sont dans les airs, elles font partie du plancton aérien, les araignées, elles sont mangées, effectivement, par tous ces animaux.
Le nombre d'œufs par cocon peut varier considérablement.
Bien évidemment, puisque je vous ai dit tout à l'heure, la plus petite fait même pas 0,3 mm. Imaginez bien que cette araignée-là va faire un œuf ou deux œufs. Les grosses mygales tropicales de très grande taille vont faire des centaines d'œufs en fait, dans un cocon. Donc c'est très variable selon les espèces et leur taille.
La soie d'araignée est le résultat d'un processus de fabrication complexe. Est-ce qu'on peut développer aussi un petit peu rapidement ?
Alors il y a quelques scientifiques, donc quelques équipes de scientifiques qui travaillent justement sur la soie. On a vu depuis très longtemps que c'était quelque chose, un matériau qui était très résistant, très solide, très élastique. Des élevages ont été faits à Madagascar en 1896. Il y a une école d'araignéiculture qui s'est faite à partir de grandes espèces tropicales. Ça n'a pas marché, mais il y a quand même encore des études qui sont faites pour essayer de produire donc un élément synthétique de cette soie d'araignée qui est vraiment apparemment beaucoup plus résistante que du Kevlar ou le fil de soie, du verre à soie qu'on utilise depuis très longtemps, et très élastique.
Et je crois qu'à diamètre égal, la soie d'araignée est plus souple que le nylon et plus solide que l'acier et le Kevlar.
Exactement, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, effectivement, et il y a certaines équipes qui travaillent là-dessus. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment produit au niveau industriel, à ce niveau-là.
Et ça intéresse aussi la recherche génétique, je crois, notamment.
Bien sûr, oui. Donc au niveau recherche génétique, on essaye de trouver justement des éléments qui pourraient nous permettre en fait, de produire et de reproduire en fait, justement ces matériaux.
Parce que la soie d'araignée pourrait peut-être, je dis bien peut-être, être utilisée pour fabriquer des parachutes, des gilets pare-balles, elle pourrait être utilisée dans la construction des avions, ou même pour des fils de suture, parce que la matière de la toile d'araignée est biodégradable.
Oui. Les études sont menées là-dessus, il y a peu d'équipes. Il y a en particulier l'armée américaine qui travaille là-dessus. Donc en fait, les articles scientifiques qui sont produits sur ce sujet sont peu nombreux et c'est quand même aussi assez confidentiel. Donc on ne sait pas trop où ça en est, donc où ils en sont dans la production justement et la reproduction en fait de ces fils.
Et les Japonais, de leur côté, rêvent de produire des chaussettes en soie d'araignée via un croisement avec des vers à soie.
Et pourquoi pas ? Ça a été tenté avec les vers à soie, ça a été tenté en Europe avec des chèvres araignées ou des vaches araignées pour produire en fait dans le lait.
Donc oui,
les protéines,
gène,
voilà,
le
tout à fait. Donc, et pour pouvoir extraire cette protéine. Donc ça a été fait. Et bon, il y a plusieurs essais qui sont faits. Je ne prendrai pas position par rapport justement à tous ces essais. Mais voilà, on sait qu'effectivement, il peut y avoir des espoirs d'utilisation de cette soie.
Et justement, il y a aussi donc, la soie, mais il y a le venin qui intéresse les chercheurs et les industriels. Au niveau scientifique, en quoi pourrait-il être utile ?
On s'est rendu compte que certaines toxines pouvaient être intéressantes pour combattre certaines maladies. Donc au niveau médical, il serait intéressant de pouvoir extraire ces toxines et de pouvoir en produire pour soigner des maladies comme l'épilepsie, donc qui a été citée déjà. Donc certaines
maladies neurologiques, je crois.
Exactement, puisque justement il y a des neurotoxines, hein, donc qui agissent sur le système nerveux. Donc là, c'est encore des prémices d'études et il y a peu en fait d'organismes privés qui s'intéressent à ça. Mais il y en a quelques-uns, effectivement, qui commencent à faire des élevages assez marqués d'araignées pour pouvoir extraire le venin. Le problème, c'est d'avoir les quantités aussi suffisantes pour pouvoir justement faire ces études.
Oui, parce que le problème, au fond, vous avez évoqué le cas de l'élevage des néphiles à Madagascar, c'est la production à grande échelle.
Et oui, c'est toujours le même problème. Et comme on a dit tout à l'heure, donc la plupart des araignées sont de petite taille, il faut arriver à extraire les venins au niveau des crochets. Les quantités sont minces, donc il faut effectivement pouvoir supplanter un petit peu cette quantité quelquefois insuffisante au niveau du venin.
Au fond, le drame des araignées, à la lumière de ce qu'on vient de dire sur les recherches, qu'il s'agisse des recherches industrielles ou scientifiques, qui sont souvent mêlées d'ailleurs, le drame donc des araignées, c'est qu'elles intéressent les chercheurs et les industriels pour ce qu'elles font, c'est-à-dire la soie, le venin, et non pour ce qu'elles sont.
Tout à fait, et je pense qu'il faut remettre aussi un petit peu... On cherche beaucoup à l'époque actuelle des applications. Je défends un petit peu le côté recherche fondamentale, et non pas recherche forcément appliquée. Et on en est encore pour les araignées dans la connaissance même de ce qui nous entoure et dans la description d'espèces qu'on ne connaît pas toutes. On a 42 000 espèces, il y en a certainement beaucoup plus encore à découvrir, peut-être 2 fois plus, voire 10 fois plus. Par rapport au rôle de l'araignée dans la nature, ce sont des prédateurs, ils sont en haut de la chaîne alimentaire, ils se nourrissent de beaucoup d'insectes. Et ils ont un rôle, en fait, justement, de régulateur de population.
C'est un maillon essentiel de cette chaîne alimentaire.
C'est un des maillons essentiels de la chaîne alimentaire. Et pourquoi toujours vouloir dire à quoi ça sert ? Pourquoi ne pas connaître aussi, même si on n'est plus dans cette époque-là, mais je pense que c'est aussi quand même important à dire, ce qui nous entoure, le décrire, l'observer, savoir comment elles vivent, comment elles se comportent, quelle est la diversité, et juste observer et se demander, en fait, il y a tout ça autour de nous et on n'imaginait pas. Moi, je pense qu'il faut garder en fait ce regard-là aussi.
Et pour terminer sur une note positive, j'aimerais que vous nous racontiez votre expérience de consultante pour arachnophobes. Alors, parce que vous êtes, en plus d'être chercheuse enseignante, vous êtes psy.
J'irai pas jusque-là. Je dis souvent en fait aux gens que je reçois, qui sont effectivement plus ou moins arachnophobes, hein, donc à des degrés divers, que je suis docteur en sciences et pas docteur en psy. Donc, je vais parler de ce que je connais. Donc, je leur parle effectivement du monde des araignées, de la diversité, donc en fonction de l'appréhension qu'ils ont. Alors, soit ils viennent eux-mêmes, soit ils sont effectivement envoyés par des psychologues. Donc, ils sont en traitement par rapport à ça. Et j'essaye de leur montrer justement cette diversité, de leur faire mieux connaître le monde des araignées. Et on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Et souvent, je ne vais pas forcément aller jusqu'à les faire aimer les araignées. Ils aiment ce qu'ils veulent. Mais leur faire comprendre et leur faire accepter de vivre justement à côté d'elles et parmi elles, puisqu'en fait on est un animal parmi tant d'autres.
Merci beaucoup Christine Rollard d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir fait partager votre passion avec cet enthousiasme communicatif.
Merci aussi.
Rapidement, je rappelle les dates de l'exposition au Muséum d'Histoire Naturelle du 5 octobre 2011 à la fin juin 2012. Pour toutes les références bibliographiques, cinématographiques et autres, je vous renvoie vers la rubrique « Pour aller plus loin » sur la page de cette émission. À propos de livres, je crois d'ailleurs, Christine Rollard, que vous avez pour projet la réalisation d'un atlas des araignées.
Oui, tout à fait, avec l'Association française d'arachnologie. Donc qui
que vous présidez, je crois.
Que je préside jusqu'à cette année. Hein, donc on va renouveler un petit peu, il faut changer un petit peu les têtes. Et on a bien évidemment l'optique de faire cet atlas pour réactualiser un petit peu les araignées qui existent en France.
Et y a-t-il une date de prévue ?
On va dire peut-être dans 2 ans.
Au revoir et merci à tous de votre fidélité.
Merci.